engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, c'est une nouvelle émission de la Rédac Pop qui vous est proposée sur le 88.3 ce samedi 19 octobre. Le média participatif et citoyen porté par Radio Campus Orléans propose régulièrement de nouveaux papiers sur son site internet. Steven Mirdin, un de nos contributeurs citoyens, a effectué deux reportages au cours des dernières semaines qui ont abouti à de longs papiers que vous pouvez retrouver sur laredacpop.org et que nous allons vous relater au cours de cette émission. Et on commence par la récente venue d'Émeric Caron à Orléans à la demande du collectif Urgence Palestine. Lors d'un ciné-débat organisé le 12 octobre dernier, le député de la France Insoumise a présenté son film diffusé le 29 mai dernier à l'Assemblée nationale. Le long métrage se nomme Gaza depuis le 7 octobre. Il revient sur les 8 premiers mois des bombardements subis par les Gazaouis depuis le 8 octobre 2023, au lendemain des attaques du Hamas sur le territoire israélien qui ont provoqué la mort de plus de 1100 personnes et la prise en otage de près de 250 civils et soldats selon les sources israéliennes. Des actes de l'armée israélienne de plus en plus qualifiés de génocide, terme sur lequel débattent historiens et juristes actuellement, alors que le Centre d'information palestinien comptabilise actuellement plus de 42 000 morts dans la bande de Gaza. En mars 2024, Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations Unies, avait elle-même affirmé qu'il existe, je cite, « des motifs raisonnables de croire que le seuil permettant de qualifier la situation de génocide a été atteint ». Fin de citation. Le film réalisé par Émeric Caron nécessite malheureusement, selon lui, un travail d'actualisation. Une alerte sur le plus grand drame humanitaire du XXIe siècle, selon lui.
Je suis venu ici parce que le film Gaza depuis 7 octobre y était projeté et on m'a demandé si je pouvais apporter un éclairage sur sa fabrication et sur la situation à Gaza depuis un an. Et donc j'étais ravi de le faire parce que je pense qu'il faut absolument qu'on parle de la situation là-bas, qu'on en parle le plus possible et qu'on incite les gens à le faire. Donc si je peux y contribuer, c'est absolument essentiel. On ne doit absolument pas rester silencieux, on doit tous se mobiliser, on doit tous essayer de voir ce qu'on peut faire tout simplement pour alerter encore chaque fois sur cette situation incroyable. C'est-à-dire que c'est le plus grand drame humanitaire. On doit alerter sur ce qui se passe à Gaza et qui est le plus grand drame humanitaire du 21e siècle tout simplement, avec un degré de mort qu'on n'a pas vu depuis des décennies. Donc c'est pour ça que c'est absolument important d'être là. Netanyahou, ce qu'il y gagne, il gagne strictement rien. Les Israéliens n'y gagnent strictement rien puisque Netanyahou les met encore plus en danger. Il hypothèque encore plus les chances de paix, donc de la possibilité que deux États vivent pacifiquement côte à côte. Ce que fait Netanyahou, c'est qu'il poursuit un projet complètement fou, celui d'un grand Israël, celui d'Israël qui considérerait que les Palestiniens n'ont pas le droit d'avoir leur propre territoire, d'avoir des libertés pleines, et ainsi de suite. Et surtout, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il prolonge sa durée de vie au pouvoir par cette guerre absolument immonde, puisqu'il est visé par d'énormes problèmes judiciaires. Et tant que les massacres continuent, il n'est pas ennuyé par la justice de son pays.
Avant la projection, le parlementaire a prévenu le public que cette production est conçue pour être, je cite, « un film pas regardable ». Pour cause, il s'agit d'une succession d'images sur le massacre qui se déroule sur les terres palestiniennes, délivrant une impression de boucle horrifique qui revient chaque jour. Ce n'est pourtant pas faute d'épargner au public les images les plus atroces. Le film commence sur la vision d'un enfant ayant survécu de peu à un bombardement. Les images de petites filles et petits garçons blessés ou tués s'enchaînent. Y a-t-il une raison pour que les enfants meurent, demande un médecin. Au début, deux couleurs prédominent à l'écran, le noir et le rouge. Le noir de la suie et le rouge du sang, puis quand la poussière retombe, tout devient blanc. Seul le rouge reste, le sang est présent à chaque instant durant chaque scène. Quand retentit un bombardement, tout s'arrête, les voix deviennent alors muettes, les respirations se coupent dans l'attente de la fin des explosions. S'ils ne sont pas tués, les gens se mettent alors à fuir. Dans la salle, le public assiste à l'impuissance des pompiers et des médecins, parfois en larmes, toujours démunis. Le 30 octobre 2023, il était estimé que 3200 enfants avaient été tués ou déclarés disparus. Le mois de novembre 2023 arrive et les Gazaouis cherchent des enfants sous les décombres. Le sang est toujours présent comme fil conducteur de ce drame. Selon le film, les forces israéliennes n'ont aucun intérêt à la paix, elles méprisent les drapeaux blancs. Ce qu'elles chercheraient selon ce film ne serait ni une vengeance ni une conquête, elles ne seraient motivées que par le sang, elles l'appelleraient, le célébreraient et le font couler. Est-ce un rêve ou la réalité ? Demande une petite fille. La question mérite d'être posée. Comment peuvent se produire autant d'actes inhumains et dégradants sans que le monde ne se sente obligé d'intervenir ? Comment le monde peut accepter qu'un père dise adieu ma fille en quittant ce qui reste d'un hôpital ? Chaque vie sauvée devient un miracle célébré, mais très vite, si les bombes ou l'armée ne tuent pas les Palestiniens, c'est la famine qui les emporte. Rien n'est épargné, ni les hôpitaux, ni les écoles. Des soldats israéliens clament « c'est notre plage » derrière une étendue de ruines, le député LFI affirme que les Israéliens n'ont rien à y gagner. La phrase suivante, déclamée par un militaire israélien, résume la logique coloniale de son gouvernement. « Cher Gazaoui, vous ne valez pas cher ». Les mois se suivent et les images continuent de défiler. Un homme palestinien fait un vœu pour une petite fille ayant fui le nord de la bande de Gaza. « J'espère que ta mère pourra revenir après la guerre », lui dit-il. Le public se demande où elle va revenir. Dans la salle, certaines personnes détournent le regard, d'autres gorges serrées laissent échapper un soupir, quand les plus émotives fondent en larmes et quittent la salle. Le film évoque également la propagande israélienne. « Il n'y a pas de population innocente à Gaza », hurle une avocate franco-israélienne sur les plateaux de télé. « Un civil non impliqué n'est pas innocent pour autant », affirme un autre représentant du gouvernement israélien. Benjamin Netanyahou et ses sbires sont montrés en train d'empêcher l'accès de l'aide humanitaire malgré les consignes de la Cour internationale de justice. Pendant que des enfants crient « je ne veux pas mourir », d'autres décident d'écrire leur nom sur leur peau pour être identifiés lorsque leur corps sera retrouvé. Cela fait maintenant un an que les enfants sont privés d'enfance. Aux côtés d'Emeric Caron, le docteur Mehdi El-Melali était présent pour témoigner de son vécu dans la bande de Gaza. Présent sur place pendant 3 semaines, suite à une mission humanitaire, il est venu transmettre le message des Gazaouis « Ne nous oubliez pas ».
Je suis médecin urgentiste, médecin humanitaire, donc je travaille avec plusieurs ONG, j'ai travaillé dans plusieurs pays où il y a des crises humanitaires, et voilà, Gaza en faisait partie, et j'ai pu apporter mon soutien comme j'ai pu au service des urgences et en réanimation. Et effectivement, on a pu voir un peu la violence un peu des blessures, la violence de ce que peuvent avoir les victimes là-bas, avec un afflux massif de patients en permanence. Comme je disais, je tire mon chapeau aux soignants qui en fait sont là depuis octobre, qui sont vraiment sur le pied de guerre pour continuer à prendre soin des patients sans relâche et sans faiblir.
Et comment vous avez fait ? Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez fait pour rentrer sur le territoire, rien que ça ? Parce qu'il me semblait que l'accès était interdit. Comment vous avez fait pour rentrer et en sortir ?
Alors tout ça est géré par l'ONG, hein, Palmed et une ONG américaine qui s'appelle Rama. Donc tout ça, c'est de la logistique qui est un peu gérée par ces ONG qui sont en communication avec bien sûr tous les partis. Notamment l'autorité israélienne. Donc voilà, ça c'est plutôt de la logistique, donc j'ai pas trop d'informations dessus, mais voilà, c'est, en tout cas c'est géré tout ça un peu diplomatiquement.
Et pourquoi 3 semaines, c'était le temps d'une mission, c'est ça?
Ouais, alors c'est les missions dans les contextes un peu difficiles comme celui de Gaza, c'est des missions qui vont être assez courtes. 3 semaines, ça reste une mission qui est courte, mais en termes d'intensité, au final, on travaille souvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui fait que 3 semaines, c'est déjà parfois un peu beaucoup. Mais c'est pas des grandes missions comme on peut faire dans d'autres pays humanitaires, quoi.
Et pendant la projection du film, je vous ai un peu regardé, j'ai vu que ça vous avait quand même touché pas mal, donc je voulais savoir si ces images, c'était ce que vous aviez vécu pendant 3 semaines, ou si c'est vraiment, on était, c'est, ce qu'on a vu, c'est vraiment, comme disait Émeric Caron, c'est rien en fait par rapport à ce qui se passe.
En fait, ça, ce film, il nous donne un peu une image de ce que ça peut être. Après, comme il l'a très bien dit, il y a des choses qui sont encore pires, qui n'ont pas été montrées et qu'on a pu voir sur place. Donc la violence, le film malheureusement ne montre pas toute cette violence-là. La difficulté, c'est de le vivre, en direct, j'ai envie de dire. C'est vrai que ces images-là me font rappeler un peu cette mission-là, et c'est vrai que ça a été des moments en tant qu'être humain, c'est assez difficile à vivre. On essaie de toujours rester dans son rôle de médecin, mais parfois c'est difficile de mettre de côté totalement les émotions.
Comment vous avez fait, comment quotidiennement pendant ces 3 semaines et même après en fait, aujourd'hui comment ça se passe, dans quel état d'esprit vous êtes en tant que médecin face à ce qui se passe là-bas, et vous personnellement, parce que tout à l'heure vous avez parlé du message et des Gazaouis, mais vous personnellement, qu'est-ce que vous en avez, qu'est-ce qui reste en fait?
Pour parler de la vie sur place, on dormait à l'hôpital. On a été très très bien accueillis par les soignants qui ont pris soin de nous pendant toute la mission. Ils ont l'art et la manière de rendre la mission facile, juste en discutant avec nous, en essayant de rigoler avec nous, même dans les moments les plus durs. Donc ça, c'est un gros chapeau à eux. Après, pour ce qui est de ça reste une mission qui laisse des marques. Après, moi, je suis médecin humanitaire, donc j'ai fait plusieurs autres terrains humanitaires, mais ça reste la mission la plus dure jusqu'à maintenant. Il y a clairement un avant, un après. On se pose des questions sur ce qu'on a vu, sur faire le bilan. Comme je dis, on reste un être humain derrière, au-delà du médecin. Il faut faire le travail sur soi-même, se dire que voilà, c'est important d'en parler. On souhaite que tout cela s'arrête pour des raisons humaines et humanistes. Et quand on est médecin humanitaire, on ne peut souhaiter que la fin de la guerre.
Et une dernière question, c'est sur la question des moyens. Là, aujourd'hui, il y a une collecte de fonds pour un hôpital gonflable. Mais en termes de moyens, ça se passait comment? Même pour vous, en tant que médecin, est-ce que vous aviez... J'imagine que la réponse sera non, mais à quel point, est-ce que vous pouvez expliquer à quel point la situation est catastrophique en termes de moyens?
Oui, effectivement, on souffre de manque de moyens sur tous les plans, que ce soit humain, de toute façon sur le plan des médicaments, du matériel, on a eu besoin de tout. On arrive à faire avec ce qui est présent ce qui est disponible à l'hôpital. Alors le grand manque, ça a été surtout de la pédiatrie. Donc on a parfois utilisé du matériel adulte pour des enfants. Et voilà, j'ai envie de dire que oui, il y a un manque de tout. Comment on s'organise dans ces conditions-là? Alors il y a des systèmes D. Il y a surtout aussi les soignants qui ont l'habitude de faire ça parce que ça fait plusieurs mois qu'ils font ça. Donc on apprend aussi d'eux beaucoup. Après, le but, c'est d'essayer de trouver les meilleures alternatives pour pouvoir traiter les malades. Donc on va choisir un autre médicament, on va peut-être choisir, j'ai envie de dire, un matériel qui est peut-être pas adapté, mais on va essayer de prendre celui qui est le plus adapté pour le patient. Et voilà, c'est un peu de l'adaptation à chaque fois. Mais clairement, le manque de moyens, il est beaucoup trop important, et on aurait besoin de recevoir beaucoup plus de matériel médical. Donc, effectivement.
Et est-ce qu'il y a eu des personnes que vous ne pouviez pas prendre en charge, justement, à cause de tout de ça?
Oui, vous dites des personnes qui ont été dont j'ai pas pu prendre en charge parce que par manque de moyens. Oui, effectivement. Oui. Il y a eu des enfants qui, par défaut de place en réanimation, ont pas pu être surveillés de façon correcte, et j'ai toujours et je pense à cet enfant que malheureusement on n'a pas pu mettre en réanimation et qui est finalement décédé par faute de place. Donc oui, clairement, le manque de moyens, il y a un retentissement réel, et ça en coûte la vie à beaucoup de patients.
Il y a des choix qui sont faits?
Non, il y a pas de choix. On essaie de traiter, on traite tout le monde. La population gazaoui est assez jeune, donc au final, toutes les vies humaines se valent. On ne fait pas de choix. Le but, c'est de faire le maximum avec ce qu'on a. Et après, malheureusement, on ne contrôle pas tout.
Et si ce long métrage ne dure pas plus d'une heure et demie pour nous, le député Émeric Caron rappelle que les Gazaouis ne peuvent arrêter leur propre film, qui dure maintenant depuis plus d'un an. A noter que de l'autre côté de la rue, toujours à Orléans, se tenait un rassemblement de personnes contre cette journée de soutien au peuple palestinien. D'après le site internet de Reconquête, le parti zémouriste d'extrême droite, une demande d'annulation de la projection du film et du ciné-débat aurait été déposée auprès de la ville d'Orléans et de la préfecture du Loiret, qui n'en ont visiblement rien fait.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
On passe à présent à un autre sujet récemment traité sur le site de la Rédac Pop. Steven était cette fois-ci au Cercil le 24 septembre dernier. Le musée mémorial des enfants du Veldiv recevait à Orléans Sébastien Ledoux, historien de la mémoire et maître de conférence à l'université Picardie Jules Verne. Le chercheur a présenté les résultats de ses travaux pour la revue Documentation photographique. Il a notamment exposé les enjeux de ce travail très spécifique des historiens de la mémoire. Pour la revue, le chercheur a réalisé un point d'actualité à partir de sources photographiques. Son travail traite des mémoires plurielles contre une mémoire d'État, c'est-à-dire nationale. Il vient défendre la singularité des mémoires, mais aussi leur collégialité segmentée, aboutissant à la construction d'une identité. Les mémoires peuvent s'opposer et engendrer des affrontements mémoriels. C'est en cela que réside le travail d'un historien de la mémoire. Sébastien Ledoux introduit sa définition de l'historien de la mémoire par une négation. Selon lui, il n'est ni un historien spécialiste d'une période historique, ni un témoin, ni un acteur de mémoire. L'historien de la mémoire se trouve dans une position tierce parce qu'il y a une prétention scientifique. Par ce domaine, il s'ouvre une nouvelle temporalité qui n'est pas de celle de la période historique étudiée. Il s'agit plutôt d'étudier l'après, ce que l'historien appelle le devenir du passé. La mémoire est un présent du passé, et d'après cette lecture, celui qui se revendique historien de la mémoire ouvre un après en analysant la question de l'actualité du passé. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas un témoin du présent. Pour ce faire, l'histoire de la mémoire dispose d'une pléthore de sources, tant orales qu'écrites ou numériques. Lors de sa présentation, il cite l'Institut d'Histoire du Temps Présent qui développe ce nouveau champ de la mémoire. Il peut s'agir d'une récolte de témoignages. Dans ce travail d'analyse des devenirs du passé, les sources médiatiques ont une place importante, par exemple celle de l'Institut National de l'Audiovisuel, dit INA. Il pose la question de la diffusion du terme de mémoire au sein de la société. Jusque dans les années 1960, le terme de mémoire est associé à une pratique langagière assez connue dans l'histoire de la langue française, à un hommage à une personne décédée ou à un objet aujourd'hui disparu. Dans les années 1970, un usage autant quantitatif que qualitatif se développe. L'usage du mot change et son utilisation s'intensifie. La mémoire se rapproche du terme de patrimoine, qui lui-même, au même moment, prend un autre sens que celui du bien mobilier. À cette période, des objets et lieux deviennent des sujets de valorisation à défendre. Ainsi, différents champs se développent comme le régionalisme, qui correspond à un décentrement de la nation et au développement d'une culture régionale. L'utilisation du terme mémoire s'associant à une identité sera de plus en plus utilisée. L'historien prend ici l'exemple de la mémoire juive. La polysémie de la mémoire marque un tournant mémoriel dont l'enjeu devient le présent. Il n'est désormais plus question de l'hommage à celui qui n'est plus. Le terme permet de structurer de nouvelles expressions dans un décentrement du référent national. Le mot de mémoire est alors investi, il se crée autour de lui des figures de style comme le devoir de mémoire, le travail de la mémoire. Les sociétés, les individus et les collectifs investissent le passé pour défendre un patrimoine, une vérité. La notion va gagner en plasticité pour évoquer un rapport au passé, dont l'apport va différer selon les individus et ou le collectif dans lequel il s'insère. Dès lors, il n'est plus possible de penser mémoire sans en évoquer sa pluralité. Il est donc plus juste de parler des mémoires. Le travail de l'historien tente de s'inscrire à une échelle internationale de la mémoire. Il cherche à décrire une mémoire transnationale et pour cela il développe une dynamique culturelle qui échappe aux nations, par exemple de la minute de silence. Ce rituel s'est créé avant la Première Guerre mondiale. La massification de cette pratique est arrivée en 1919 lorsque le roi d'Angleterre demanda 2 minutes de silence dans tout le pays. une suspension du temps et du corps au cours de laquelle les individus sont tous unis par un même geste. On y retrouve l'intention de la nation, à savoir l'unité. Ce rituel sera repris par l'URSS, puis dans la Seconde Guerre mondiale, dans certains camps en Allemagne. La massification s'effectue aussi lors d'événements culturels et sportifs. La minute de silence est aujourd'hui institutionnalisée dans le cadre de cérémonies, d'injonctions institutionnelles suite à un événement et d'autres mouvements plus spontanés. Le travail des mémoires permet de lutter contre les mémoires nationales qui proposent un contrat narratif. Ce contrat porte sur une vision quasiment anthropologique de l'histoire qui peut se résumer par cette maxime « Si tu existes, c'est parce que d'autres se sont battus pour toi ». Le contrat narratif va déployer tout un calendrier commémoratif, prenant en compte des circulations de mémoire. Le spécialiste de la mémoire fait le constat que le contrat narratif change. Les acteurs fondent un nouveau contrat orienté vers les victimes de violences, de racisme, d'antisémitisme, pour construire une société de tolérance, de vivre ensemble et de respect autour de la valeur des droits de l'homme. Les violences du passé avaient alors une tradition des nations de l'amnésie et de l'amnistie. Le politique oubliait pour avancer, mais le nouveau contrat est de dire qu'il faut mémorialiser les crimes et rendre hommage aux victimes. On est à l'antithèse de la pratique des nations. Le politique considère jusque dans les années 1980 que l'oubli est vertueux et pacifie la société. Désormais, c'est la mémoire qui pacifie les sociétés. La dimension entre mémoire et justice a permis de porter l'importance de la mémoire dans nos sociétés. Sébastien Ledoux explique que désormais, la société, dans une perspective de justice, aspire à la mise en mémoire des victimes. Elle suppose un travail du passé pour s'en libérer. Une référence presque freudienne contre le ressassement. L'oubli devient alors une infraction d'ordre public. Et pour aller plus loin, Steven s'est entretenu avec le chercheur à la fin de sa conférence.
Bonjour, c'est Sébastien Ledoux.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, vous venez au CIRCIL pour présenter votre travail autour de la photographie. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'impératif qui est fort et difficile à contester du devoir de se souvenir, en fait. Est-ce que vous pensez que on peut se soustraire à ce devoir de mémoire?
Alors, on peut se soustraire à ce devoir de mémoire, c'est-à-dire on peut se soustraire à se souvenir de tel ou tel passé. La mémoire, en fait, fait partie de la société, je dirais, de la condition humaine, dans la mesure où, quand on regarde l'histoire depuis l'Antiquité, les individus ont toujours souhaité se souvenir des êtres qui étaient disparus. Je pense par exemple aux pratiques funéraires, ne serait-ce que ça, hein. Les pratiques funéraires sont très très anciennes. Les pratiques funéraires, ça veut dire tout simplement qu'on va rendre hommage à ceux qui ne sont plus là, aux proches qui sont morts, et c'est une façon aussi de se souvenir d'eux. À partir du moment où on protège le corps et on lui rend une sépulture dans un endroit précis, c'est un lieu commémoratif. Et donc c'est une manière de se souvenir de lui. Donc je dirais que la mémoire traverse en fait les sociétés humaines et est l'une des des éléments de notre condition humaine.
Une sorte de composante en fait de notre société.
Oui, tout à fait. Voilà.
Donc vous aviez parlé de mémoire au pluriel, et donc il y a une mémoire dont vous avez parlé, c'est le récit national, la mémoire nationale, le récit roman national, on peut l'appeler comme ça, c'est pas forcément la même chose?
C'est pas la même chose, récit et roman.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la différence?
En fait, le récit national, c'est tout simplement une mise en récit, hein, c'est une façon de raconter l'histoire nationale, l'histoire de la nation. Hein. Donc, par exemple, en France, l'histoire de la nation française, qu'on va raconter à travers des films, à l'école, bien sûr, mais aussi à travers des films, des livres, à la télévision. Donc, c'est une façon de raconter l'histoire nationale. Ce qu'on appelle le roman national, c'est un terme qui est apparu dans les années 90, donc il y a une trentaine d'années. Hein. Le roman national, c'est une façon de raconter un certain type d'histoire où, en fait, on va surtout vanter la nation, hein, on va vanter les mérites de la nation à travers principalement des hommes. hein, donc des hommes glorieux, donc ce qu'on appelle les grands hommes, des hommes glorieux, autour de conquêtes, autour de victoires. Et donc on va éliminer, on va dire, tout ce qui pourrait justement aller à l'encontre de la nation française, donc des erreurs, des crimes que la nation aurait pu commettre, etc. Donc c'est ça qu'on appelle le roman national. C'est une façon de romancer en fait l'histoire, quoi.
D'accord. Alors, je vais parler de récit, donc. Et ma question, en fait, c'est... Vous avez parlé, justement, de ce lien presque religieux, en fait, que la nation déploie autour d'un récit. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que ce récit national, il doit s'imposer, en fait, à tous les membres de la société et comment est-ce qu'il s'impose aussi ?
Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce qu'il doit s'imposer à tous ? En fait, les États, et donc les acteurs au pouvoir, hein, les gouvernants, hein, ont considéré que pour faire nation, il fallait que, pour faire créer une collectivité, créer une communauté nationale, hein, avec des gens bien différents, hein, avec des statuts différents, des origines différentes, etc. Eh bien, pour constituer une collectivité nationale, une communauté nationale, il fallait qu'ils partagent le même récit du passé. Hein, donc ça, c'est le 19e siècle, hein, c'est la création des récits nationaux au 19e siècle, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres pays européens, notamment. Et donc, on a cette ambition, en fait, que finalement, on fasse partager, et partager via l'école, hein, principalement, hein, par l'école, partager un même récit historique à toute une population pour qu'elle elle ait quelque chose en commun. Hein, puisqu'en fait, les États-nations considèrent qu'effectivement, il y a plein de diversité, il y a plein de groupes, il y a plein de mémoires individuelles, et que, bon, il faut créer une mémoire commune. Il faut créer une mémoire commune, allez, et à travers un grand récit historique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mémoires. En fait, il y a plein d'autres mémoires, effectivement. Il y a la mémoire des individus à l'échelle individuelle, à l'échelle des familles. Il y a des mémoires familiales, des mémoires des quartiers, des mémoires des villages, des mémoires... Pardon ? À l'échelle d'une culture, d'un groupe. D'un groupe ethnique, même une mémoire religieuse, on peut avoir aussi des mémoires religieuses, etc. Mais effectivement, l'ambition des États-nations, c'est quand même de créer un grand récit historique qui soit partagé par tout le monde. Et c'est ça qui explique en fait la création des journées de commémoration, par exemple. Voilà, hein, donc ça, c'est les journées de commémoration, c'est l'instrument, je dirais, privilégié de ces États pour justement créer un récit commun.
Mais est-ce que c'est le meilleur instrument qu'on puisse utiliser aussi ? C'est les commémorations. Enfin...
La question est posée.
Parce que je pense à ça, parce qu'on peut commémorer plein de choses. Enfin, on a vu par exemple Emmanuel Macron qui avait commémoré la mort du maréchal Pétain et qui après avait participé aux commémorations de la Shoah. Donc, et puis, chose qui lui a été reprochée d'aller aux deux commémorations qui étaient un peu antinomiques. Donc c'est pour ça que je me pose la question de est-ce qu'on peut tout commémorer, en fait ? Est-ce que ça fonctionne vraiment, ça ? Pour créer un récit national ?
Alors, la question du maréchal Pétain, là, plus précisément, c'était rendre hommage à différents maréchaux de France de la Première Guerre mondiale, et dont le maréchal Pétain. Bon, et puis finalement, il l'a pas fait. Enfin, bon, donc il y a eu tout un débat à ce moment-là. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir les évolutions, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on commémore ? Par exemple, qu'est-ce qu'on va panthéoniser ? Hein, il y a la question du panthéon, c'est aussi une sorte de récit national qu'on compose. Hein, et donc, ça va être Manouchian, le dernier en date, c'est lui, hein, Missak Manouchian, qui était un résistant communiste de la Seconde Guerre mondiale, d'origine étrangère, hein, d'origine arménienne. Et donc, c'était une façon aussi de rendre hommage à des étrangers qui s'étaient battus pour la France. Bon. Il y a la question des femmes. Donc, voilà, le débat autour de Gisèle Halimi, est-ce qu'il faut la panthéoniser ou pas, mais En tout cas, on se rend compte depuis quelques années qu'il y a une intention de la part des présidents de la République, puisque c'est de leur décision, hein, la panthéonisation, d'intégrer des femmes. Alors qu'avant, elles étaient justement absentes, totalement absentes. Donc c'est une nouvelle façon aussi d'écrire l'histoire et de la raconter, hein, c'est-à-dire de prendre en compte le rôle des femmes dans l'histoire nationale.
Ça rejoint votre exemple, ça rejoint ce que vous disiez là pendant votre présentation du regard avec les yeux du présent, du passé. C'est comme ça que vous l'avez un peu formulé. Du coup, avec la remise en question du patriarcat aujourd'hui, donc on se met à revoir le passé à travers notamment les femmes.
C'est exactement ça. Alors j'ai une page dans le doc photo, hein, sur les mémoires féministes. Par exemple, sur la commémoration de la Première Guerre mondiale, vous savez qu'il y a le soldat inconnu, hein, l'hommage qu'on rend au soldat inconnu devant l'Arc de Triomphe à Paris depuis 1922. Et en fait, il y a un mouvement féministe qui, en 1970, est venu déposer une gerbe devant le soldat inconnu, et ça a été photographié. Donc on a une photo qui est dans la documentation photographique, quelques femmes de ce mouvement féministe, pour dire justement il n'y a pas que le soldat inconnu, il y a sa femme. Et donc c'était une contestation justement d'une mémoire de type patriarcal. Alors c'est de plus en plus le cas, hein, on est de plus en plus dans des revendications d'équilibre d'une mémoire nationale composite qui soit inclusive. Alors inclusive à la fois sur la question du genre, hein, donc pour intégrer des femmes, mais aussi à la fois du côté des minorités, minorités ethniques. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce mouvement qu'on appelle postcolonial ou décolonial, pour intégrer justement la dimension coloniale au récit national, avec de nouvelles figures là aussi, quoi, en fait.
Alors, ça sera peut-être ma dernière question. Vous avez parlé d'une infraction à l'oubli d'ordre public tout à l'heure. Oui. D'une infraction, alors ça a été crime ou infraction ?
De l'oubli comme un trouble à l'ordre public. Exactement. Exactement.
Et je voulais revenir dessus parce que je me disais, mais est-ce qu'on a le droit d'oublier ? Est-ce qu'au final, on peut oublier des choses ? Moi j'avais aussi en tête quelque chose dont on parle très peu, ou en tout cas c'est le sentiment que j'ai, la Commune de Paris, qui par exemple dans la culture communiste est très importante, mais pourtant dont on ne parle pas dans le récit national. Donc est-ce qu'on a le droit d'oublier des choses ?
Alors là, il y a deux questions dans votre question. Ok. Il y a un droit à l'oubli, et de toute façon, il n'y a pas de mémoire sans oubli. C'est-à-dire que pour qu'une mémoire fonctionne, il faut de l'oubli. En fait, c'est propre au fonctionnement de la mémoire. L'oubli est intégré dans la mémoire, et donc il y a évidemment un droit à l'oubli. Et après, c'est la question de la sélection. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut oublier, de quoi il faut se souvenir, en fait. C'est toujours cette fameuse question, hein, vraiment, de quoi il faut se souvenir. Et là, vous citez la Commune, c'est un bon exemple, effectivement, d'une mémoire qui est portée par un parti politique, les communistes, à partir des années 1920, largement, mais qui ne s'est pas nationalisé, si je puis dire, hein, qui était à un moment donné porté par le PS, le Parti Socialiste, mais qui ne s'est pas nationalisé. Alors peut-être qu'un jour il y aura un hommage, une panthéonisation d'une figure de la Commune, mais en tout cas ce n'est pas le cas aujourd'hui, on pourrait penser que il y a d'autres, par exemple Manouchian était pas du tout porté par tous les partis politiques, hein, donc et puis il finit quand même au Panthéon, et donc on peut penser que justement des personnes de la Commune puissent rentrer au Panthéon à un moment donné.
Donc il y a toujours une possibilité de se souvenir, en fait, de se rappeler.
Oui, mais en fait, c'est pas juste une possibilité, c'est-à-dire que le souvenir est un fonctionnement qui met en connexion le passé et le présent de manière permanente, en fait. Donc c'est toujours un dialogue, c'est le résultat d'un dialogue entre le passé et le présent, des préoccupations du présent qui revisitent le passé, justement, à l'aune du présent. Et à l'aune du futur aussi, parce qu'il y a toujours une projection d'avenir quand on veut se souvenir.
La Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans.
Et voilà pour le résumé des derniers articles parus sur le site de la Rédac Pop. Le média citoyen et participatif de Radio Campus Orléans est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent s'essayer aux techniques et à la production journalistique. Le tout sur une ligne éditoriale orientée autour de l'expression citoyenne, de la lutte contre les discriminations et de l'actualité locale. Pour nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rendre visite dans les locaux de Radio Campus Orléans. Vous pouvez aussi retrouver tous les moyens de nous contacter sur notre site laredacpop.org. On se retrouve la semaine prochaine, même jour et même heure. Très bonne journée à toutes et à tous.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
ici par rapport au local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du contenu. Non.
Radio Campus.
Non, je vous en parle parce qu'on vit un tournant capital de notre histoire. Une nouvelle ère. On entre dans une époque charnière.
Vraiment ?
Ouais. C'est passionnant.
88.3.
let's talk about the good old days.
L'horloge obsessionnelle tourne dans ma tête. J'ai pas l'habitude de tirer tant de plans sur la comète. Projet remis au lendemain, t'aurais pu boucler la veille. Ficelé comme une galérien sans mise à jour, sauvé le réveil. Je regarde passer les trains, je ne fais pas partie de cette foule, c'est certain. Comme si je demeurais devant tout ce passage, infime et sourd. C'est plus qu'infime et sourd. Point du tout me diras-tu, ce train comme le temps me paraît si long. Cette vie de galérien choisit ses passagers, moi-même le dernier dans son wagon. Compartiment du mort rempli d'évasion. La preuve dès la prochaine occasion, je retiens le billet en aller simple. Car c'est ma destination, c'est ma destination, c'est ma destination. Je partirai ce soir, dès le lendemain matin. Si je pouvais, en théorie, je plaquerais tout du jour au lendemain. Si mes envies me le permettaient, je m'embarquerais vers de nouveaux horizons sans regret. Voir les choses en grand, c'est bien, mais faut se donner les moyens de ses ambitions. C'est un défilé impressionnant. Dans cette foule se pressent des couples avec ou sans enfants. Je regarde au détour d'une mine me réjouit cette marmaille avec leurs parents. La tête baissée avec pour seul bagage mon portable avec lequel je puisse communiquer en 4G avant l'entrée en gare. Mettons-nous seuls à table, soyons aimables et merci de ne pas paniquer à bord de ce nouvel espace. Dans quel compartiment suis-je le mieux placé? Pourquoi ces gens me dévisagent-ils d'un air si étonné? Ce voyage n'est pas de tout repos, mon inspiration aura parlé. Je vide mon sac, elle est ma nourriture en guise de pause déjeuner. Je partirai ce soir, dès demain matin. Si je le pouvais, en théorie, je plaquerais tout du jour au lendemain. Si mes envies me le permettaient, je m'embarquerais vers de nouveaux horizons sans regret. Voir les choses en grand, c'est bien, mais faut se donner les moyens de ses ambitions. Partir sans jamais revenir, c'est comme cela que le départ de nuit se fixe. Contrôleur d'un jour que de humain dépourvu de perspective. Que faire, quoi dire, comment se construire dès mon arrivée dans ce nouveau paradis. Dès que les phares de la réalité m'éblouissent dans cette vie. La chute est brutale, quoi que j'en dise. Donc je reste à Orleans, aux grands yeux bleus. Au prochain départ se réaliseront mes chers voeux. Ils ne seront plus pieux, plus concrets seront mes adieux. Pour la transition au prochain chapitre, l'histoire continue. Cela mouille. Jamais ne s'atténue.